Connaissez-vous la réponse à la question suivante? Est-ce que Dieu voit le mal que les gens font à ceux qui lui appartiennent? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qu'il ne faut surtout pas manquer aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je pense sincèrement qu'on va apprendre des choses importantes et sérieuses au cours de l'émission aujourd'hui. Vous serez sûrement d'accord avec moi quand vous entendrez les questions qu'on va poser à Dieu, à sa parole. Alors, sans plus tarder, les voici. Qu'est-ce que ça produit quand une personne a de l'amertume dans le cœur? Est-ce que Dieu voit le mal que les gens font à ceux qui lui appartiennent? Est-ce qu'un chrétien a le droit de haïr les Juifs? Pourquoi les Juifs sont-ils l'objet de tant de haine? Y a-t-il un parallèle entre l'histoire d'Esther et la naissance de Jésus pour ce qui est de démontrer la providence de Dieu? Est-ce qu'on peut annuler un décret de Dieu? Est-ce que c'est vrai que la Bible est un décret de Dieu? Demeurez avec nous et demandons à Dieu qu'il nous aide à bien saisir le sens de l'enseignement qu'il va nous donner aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Prions. Seigneur mon Dieu, on est content d'entrer dans ta présence et de savoir que tu vas nous enseigner encore ta parole avec tellement de fidélité aujourd'hui. Parle à nos cœurs, Seigneur, dispose-nous à tout faire pour mettre en pratique ce que tu nous enseignes pour ta gloire, ô mon Père. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu met en place les personnes pour protéger son peuple avant même qu'Aman soit élevé en dignité et décide de faire périr le peuple juif, parce que Mardochée refuse de se prosterner devant lui. Esther, une juive, est élevée à la dignité de reine. Son père adoptif obtient un poste important. Il siège désormais à la porte du roi. Il a vent d'un complot pour assassiner le roi, et il en informe Esther qui, à son tour, avertit le roi. Une enquête détermine la véracité de la dénonciation. Le roi note dans ses chroniques le service que lui a rendu Mardochée. Ensuite, Aman, un Amalécite, fut élevé à la plus haute position du royaume après la royauté. Mardochée, fidèle à ses convictions, refusa de se prosterner devant Aman. Cet homme faible entra dans une grande rage et détermina de non seulement faire périr Mardochée, mais aussi de faire périr son peuple. Maintenant, Aman commence l'exécution de son plan afin d'exterminer tous les Juifs du royaume. Chers amis, débutons notre lecture. Esther chapitre 3, verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. L'amertume dans le cœur conduit une personne à faire des folies. À chaque jour, l'amertume augmente dans le cœur d'Aman. Chaque fois qu'il passe par les portes de la ville, tous se prosternent, sauf Mardochée, le juif, et cela irrite fortement Aman. Il est déterminé à faire tout ce qui est nécessaire pour mettre fin au comportement de Mardochée. Lorsque Aman découvre que Mardochée refuse de se prosterner à cause de ses convictions religieuses, il décide d'exterminer les Juifs et il planifie un génocide. Nous avons, nous aussi, un avertissement dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 14 et 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Dieu contrôle les tirages au sort. Aman convoqua des magiciens et on jeta le sort appelé pur afin de déterminer quel mois procédait au génocide. Ce que les magiciens et Aman n'ont pas perçu, c'est que c'est Dieu qui a choisi le mois d'Adar. Dieu permit que le sort tombe sur le dernier mois de l'année, ce qui alloua suffisamment de temps pour découvrir et arrêter le complot d'Aman. Versets 8 et 9. Alors Aman dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Dieu a prévu le coup d'Aman, mais les humains ne voient pas leurs erreurs. Aman porta à l'attention du roi le fait qu'il y avait un peuple différent des autres dans son royaume. Ce peuple suivait la loi mosaïque, ce qui est inhabituel. Donc il devait être exterminé selon Aman. Il a convaincu le roi que ce peuple refusait de suivre les lois du roi et que leur extermination et la confiscation de leurs biens enrichiraient le roi. Xerxès, Assuérus étant son titre, venait de subir une défaite militaire aux mains des Grecs et auparavant, selon les historiens, il avait maté une rébellion de Babylone et une autre rébellion de l'Égypte. Ses coffres avaient besoin d'être renfloués, car ses guerres lui avaient coûté cher. Le projet de Aman lui aurait peut-être permis de combler son déficit. Le roi fut intéressé, car quel chef d'État n'est pas attiré par une nouvelle façon de lever des fonds? Xerxès ne respectait pas la vie humaine, comme c'était le cas des rois en général à cette époque. Il n'a même pas demandé à Aman quel était ce peuple qu'il voulait exterminer. Aman ignore qu'il planifie le génocide du peuple de la reine Esther. Xerxès ne sait pas que sa reine est une juive et qu'il est en train de signer son arrêt de mort. Revenons au texte, verset 10. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi des Juifs. L'anneau que le roi donna à Aman était un sceau. En signant les documents avec ce sceau, c'est la signature du roi qu'Aman y apposait. Avec ce sceau, le document devenait une loi irrévocable. Donc, sans réfléchir, le roi remet le sceau à Aman et en fait, il dit, « Je ne sais qui sont ces gens et je m'en fiche. Si tu penses qu'ils devraient être exterminés, je te donne carte blanche. Occupe-toi de l'affaire. » La vie humaine n'avait pas de valeur aux yeux d'Xerxès. Il avait gaspillé les richesses de son royaume dans une guerre contre la Grèce, et des milliers de personnes sont mortes au cours de cette campagne. Les estimés des pertes en vie humaine varient d'un historien à l'autre, mais tous sont d'accord pour dire qu'elles étaient élevées. Certains proposent jusqu'à 2 millions d'hommes. Le fait qu'une très grande multitude soit morte à cause de son erreur ne semble pas avoir empêché Xerxès de dormir. Versets 11 à 13. Et le roi dit à Aman, « L'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. » Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, « Suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, aux satrapes du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits-enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. » Ce décret est émis en tant que loi des Mèdes et des Perses, donc il est irrévocable. Leur royaume s'étendait de l'Inde jusqu'à la Méditerranée, sur une partie de l'Europe et une partie de l'Afrique, en passant par l'Égypte et l'Éthiopie. Son grand royaume était formé de 127 provinces, ce qui signifie qu'on y parlait, au minimum, 127 langues. De plus, dans ces provinces, il y avait des tribus qui parlaient différents dialectes. Le décret dut être traduit dans ces nombreuses langues. Donc, Aman avait entrepris un projet de grande envergure. Ce fut la tâche des scribes de copier et traduire ce décret. Lorsqu'il y eut suffisamment de copies, elles furent livrées par des messagers voyageant sur des chameaux, des ânes ou des chevaux. Ce décret donnait libre cours au sentiment d'antisémitisme et permettait à de nombreuses personnes de faire ce qu'elles désiraient dans leur cœur. Il serait légal de tuer les Juifs le jour désigné par le décret. Ce décret était en fait une loi des Mèdes et des Perses. Nous avons vu au début du livre qu'une loi portant le sceau du roi était irrévocable. La loi ne pouvait être ni modifiée ni annulée. Nous verrons plus loin qu'il fut nécessaire qu'Assuérus émette un autre décret annulant les effets du premier. Versets 14 et 15. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. La ville de Suse fut étonnée et consternée. Les Juifs n'étaient pas des traîtres. Ils n'avaient pas commis de crime méritant cela. Pourquoi prendre des mesures si draconiennes contre ce peuple et vouloir l'exterminer? Quoiqu'ils n'aient pas nécessairement aimé les Juifs qui étaient considérés des étrangers avec des coutumes différentes, les habitants de Suse ne voulaient pas les exterminer. Ils ne comprenaient pas pourquoi Xerxès avait émis un tel décret. Des centaines de messagers ont dû recevoir des ordres ce soir-là et se mettre en route vers toutes les provinces du royaume. Les messagers ont dû voyager de nuit, et lorsqu'ils arrivaient dans une ville ou un village, ils devaient afficher le décret afin que la population puisse le lire le lendemain. Lorsque leurs chevaux étaient épuisés, ils devaient en obtenir un autre bien reposé et poursuivre leur route. Le décret fut ainsi annoncé dans tout le royaume. Les messagers agirent en toute hâte pour exécuter l'ordre du roi. Oui, la ville de Suse fut consternée. Mais cela ne dérangea pas le roi. Il fêta avec Aman et il but. Le roi ne s'était pas encore rendu compte qu'il venait de condamner sa reine. Le chrétien n'a pas le droit d'haïr les Juifs. Mes amis, l'antisémitisme n'est pas acceptable, et il existe encore, malheureusement, aujourd'hui. Cependant, aucun chrétien ne devrait haïr les Juifs. L'antisémitisme trouve son origine sur les chantiers de briques d'Égypte, sous le joug cruel de Pharaon, alors que le peuple devint une nation. Depuis ce jour, les grandes nations du monde furent toujours contre les Juifs. Ce fut le cas de la Syrie et de Babylone qui ont amené les Israélites en captivité. Dans le livre d'Esther, nous voyons ce qu'ils ont subi en Perse. Rome ne fut pas tendre à leur égard, ni l'Espagne, où ils furent les victimes de l'Inquisition. 6 millions de Juifs périrent sous le régime hitlérien. Pourquoi les Juifs sont-ils l'objet de tant de haine et de sentiments antisémitiques? Une explication surnaturelle peut être proposée. Selon le plan et la providence de Dieu, les Juifs sont le peuple qui fut choisi pour recevoir et conserver les saintes Écritures. Tous ceux qui ont veillé sur les Écritures furent des personnes de cette nation. C'est par les Juifs que nous avons reçu notre Bible. Dieu les a choisis pour accomplir cette tâche. Ils nous ont transmis fidèlement l'Ancien Testament et Satan les haït, car ils en sont le dépositaire. Dieu leur a confié sa parole. De plus, le Seigneur Jésus est issu, selon la chair, des patriarches. Et les patriarches? Et de qui est issu, selon la chair? Le Christ. Citation de l'Épître aux Romains chapitre 9, verset 5. Le Seigneur naquit dans la nation juive, et c'est un fait incontournable. C'est pourquoi il y a une haine surnaturelle des Juifs. C'est très clair dans la Bible. Nous savons que Dieu les a choisis pour former son peuple et qu'ils sont la nation choisie. Donc, Satan les hait. C'est pourquoi Satan, étant le prince de l'air, des nations déchaîne parfois leur colère contre les Juifs. Une loi promulguée par Xerxès ne pouvait pas être révoquée. Nous avons vu cela en examinant le cas de Vasti. Lorsque le roi fut calmé, il ne put reprendre la reine Vasti. Cette loi ou ce décret ne pouvait pas être modifié, même pas par le roi. Il était absolument interdit de modifier ou d'annuler une loi des Mèdes et des Perses. Comment est-ce que Dieu va sauver son peuple? Il va émettre un deuxième décret. Quelqu'un devra intervenir, et Dieu a déjà placé des personnes en position de le faire. L'histoire d'Esther et la naissance de Jésus démontrent la providence de Dieu. Faisons un lien. Lorsque nous avons débuté l'étude de ce petit livre, nous avons parlé de la providence de Dieu. Nous avons su ce qui se passait dans le palais d'un roi païen. Nous furent témoins d'une orgie à laquelle ont participé plusieurs milliers de personnes. Un scandale éclate et la reine, qui a refusé d'obéir au roi, est destituée de son titre. Qu'est-ce que cela a à voir avec secourir le peuple de Dieu? Tout, mes amis, tout. Dieu agissait déjà et l'ampleur de sa puissance se manifestera. Il a placé quelqu'un à côté du roi et de son trône. Cette personne sera l'instrument de Dieu pour sauver son peuple. La providence de Dieu se voit aussi dans la naissance du Seigneur Jésus. César Auguste avait ordonné un recensement de la population de l'Empire afin de lever des impôts. En émettant ce décret, il ne savait pas qu'il provoquerait l'accomplissement d'une prophétie. Son décret a obligé une jeune femme, Marie, à se rendre à Bethléem, ville de ses ancêtres. Son enfant naquit dans cette ville, et c'est là qu'il devait naître. Si on l'avait dit à Auguste César, il aurait ri. « Je ne connais rien des bébés, mais je sais collecter des taxes. » La naissance du Messie à Bethléem avait été prophétisée par Michée. Michée chapitre 5, verset 2. Le décret de César obligea Marie à se rendre à Bethléem alors que le bébé était presque dû. Et c'est là qu'il vint au monde. Et ce bébé était nul autre que le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur. Dieu contrôlait ce qui se produisait dans le palais de César. Dieu était dans le palais de Xerxès aussi. Dieu était dans l'ombre et veillait sur son peuple. Le décret épouvantable fut annoncé dans tout le royaume. Notez la réaction de Mardochée. Chapitre 4 du livre d'Esther, versets 1 et 2. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis, il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. En apprenant la nouvelle, Mardochée se revêtit d'un sac et se couvrit de cendres. Il exprima ici toute sa douleur. Il croyait que le décret était vrai, et il savait qu'il ne pouvait pas être révoqué ou modifié. Il pouvait y avoir 15 millions de Juifs dans tout le royaume à cette époque. Si le génocide avait eu lieu, cela aurait été un massacre terrible, inutile et sans raison d'être. Parce qu'un petit fonctionnaire refusait de se prosterner devant Aman, toute une race devait être exterminée. Notez que Mardochée n'a aucun doute dans son esprit au sujet du décret du roi. Il sait que celui-ci sera exécuté. Dieu émet aussi des décrets. Personne ne peut révoquer ou annuler un décret de Dieu. Personne ne peut les modifier. Dieu ne le fera certainement pas, car ses plans sont le fruit d'une sagesse infinie et ils sont parfaits. La Bible est un décret de Dieu, chers amis. Il arrive qu'un gouvernement tranche un débat, règle un conflit de société interminable par l'émission d'un décret. La Bible est un décret de Dieu. Dans ce décret, Dieu nous annonce les conditions auxquelles il pardonnera nos péchés et nous recevra avec lui dans son ciel pour l'éternité. Nous ne pouvons pas remplacer un décret par nos propres lois et nos propres règles. Ce n'est pas à nous de déterminer les conditions auxquelles Dieu devra nous pardonner. Dieu est le Créateur de l'univers et c'est lui qui détermine les règles en fonction de sa justice, de sa sainteté et de sa sagesse. Le décret de Dieu est immuable. Et voici ce décret. L'homme qui pèche est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Exode chapitre 18, versets 20 et 21. Ce décret de Dieu est immuable. Tous ceux qui ont péché meurent. Nous ne croyons plus cela aujourd'hui? Le monde dit qu'il n'y a pas de péché? La psychologie affirme qu'il n'y a pas de péché, ou encore que c'est à chacun de décider ce qui est bien ou mal. Lorsque nous lisons au sujet des grands réveils religieux, nous remarquons que les gens pleuraient à cause de leurs péchés. Aujourd'hui, nous voyons rarement ce phénomène. Les gens ne croient pas qu'ils sont pécheurs, ou ils croient que Dieu est bonasse et qu'il va pardonner à tout le monde. Un grand prédicateur a prêché un sermon intitulé « Des pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère ». Cela se produisit il y a quelques siècles. Aujourd'hui, qui oserait prêcher un tel message? Il faut dire aux gens que Dieu les aime. Il ne faut pas traumatiser les gens en parlant de péché et de jugement. Mais cependant, Dieu dit, « L'âme qui pèche est celle qui mourra. » Notre âme sera condamnée à l'enfer éternel pour sa rébellion contre Dieu. Cependant, le décret de Dieu laisse place à la repentance. Il a envoyé son Fils racheter les pécheurs en mourant pour eux à la croix. Ceux qui acceptent le Seigneur Jésus sont crucifiés avec lui à la croix, et ils reviennent à la vie avec lui. Ils sont morts en Jésus-Christ. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains chapitre 6, verset 6. L'âme qui refuse de se repentir devra payer elle-même pour ses péchés. Ce sera la perdition éternelle. L'âme qui se repent et revient à Dieu, en passant par le Fils Jésus-Christ, reçoit gratuitement la vie éternelle. Elle est crucifiée avec Jésus-Christ et elle revient à la vie avec lui. Mes amis, croyez-vous Dieu qui dit que l'âme qui pèche est celle qui mourra? Malheureusement, aujourd'hui, nous insistons tellement sur l'amour de Dieu, au détriment de sa sainteté et de sa justice, que les gens ne croient plus vraiment que Dieu peut envoyer quelqu'un en enfer. L'enfer, s'il y en a un, c'est pour les cas extrêmes, disent ces mêmes gens. Cependant, écoutez la parole de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Chers amis, prochaine émission, Esther chapitre 4, verset 3 à chapitre 5, verset 4.
Merci beaucoup, Réjean. Je suis tellement heureuse que tu aies dit que le chrétien n'a pas le droit de haïr les Juifs. Tu as mentionné plusieurs époques où on les a persécutés. Mais gloire à Dieu, parce que personne n'a réussi à les éliminer. Je me souviens quand j'étais petite. Je ne sais pas si c'était comme ça partout au Québec, mais dans mon entourage, à l'école par exemple, j'avais des amis qui m'amenaient chez eux et parfois, quand ils faisaient des mauvais coups, leurs parents, en colère, leur disaient « Ah, toi, mon petit juif! » Comme si c'était mal d'être juif, ou comme si c'était entendu que les juifs étaient reconnus comme des personnes qui faisaient le mal. Et un jour, J'en ai parlé à ma mère et elle m'a dit que je ne t'entende jamais dire des choses comme ça. Et je suis tellement reconnaissante envers Dieu qu'il m'ait placée dans une famille qui n'est pas antisémite. Quand j'étais adolescente, une de mes meilleures amies était juive et j'aimais beaucoup aller chez elle. Ses parents étaient très bons envers moi et j'avais beaucoup de plaisir avec cette amie. Et plus tard, juste avant de connaître le Seigneur, j'ai même été amoureuse d'un homme qui était juif. Et ce qui m'avait attirée à lui, c'était la manière dont il traitait les gens. Il était très respectueux, et c'était un homme assez humble aussi, et très doux, malgré le talent musical qu'il possédait. Mes amis, j'imagine la colère de Dieu envers les gens qui haïssent son peuple. Et en parlant de la colère de Dieu, avez-vous remarqué qu'Henri Jean a mentionné que Dieu était en colère contre le péché? Je connais un prédicateur qui parlait de la colère de Dieu un jour, et il a dit une phrase qui m'a bien impressionnée. Il a dit que Dieu nous avait aimés du sein de sa colère. Il a dit que Dieu était en colère envers chacun de nous à cause du péché, mais il nous a aimés. Il a pris les moyens nécessaires pour nous pardonner. Il a donné son Fils unique, Jésus, qui est venu sur cette terre dans un corps d'humiliation comme le nôtre. Il s'est laissé arrêter, flageller, donner des coups de poing, cracher au visage, mettre une couronne d'épines sur la tête, pour ensuite se laisser crucifier sur une croix, pour payer la dette de nos péchés, lui qui était sans péché. Mon ami, peu importe qui tu es, sache que tu es un pécheur et que tu as besoin du pardon de Dieu. Et le seul moyen pour l'obtenir, c'est de croire en Jésus, c'est de mettre ta confiance en lui seul pour le pardon de tes péchés. Jésus s'est laissé crucifier par amour pour toi. Il savait que tu naîtrais un jour, que tu pécherais, que tu serais incapable de te sauver toi-même. Paul nous dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché. Il ajoute dans la même épître, au chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Mon ami, laisse Jésus ôter ton péché. Il veut te donner la vie éternelle. Il frappe à la porte de ton cœur en ce moment. Laisse-le entrer, repens-toi, change de direction, détourne-toi du péché et dis à Jésus que tu es incapable de te sauver toi-même. Demande-lui de le faire. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il a les bras ouverts devant toi. Il veut que tu lui appartiennes pour l'éternité. Reçois Jésus maintenant. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Mmh. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.